Notre frère Jean-Pierre Chervé, ce matin, a dit dans sa prière combien il était difficile d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et c'est justement de ce sujet-là que je veux vous entretenir. Et je vous propose une lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13. Évangile de Jean, chapitre 13. On va lire les versets 1 à 30. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il noua autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, mais tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors, c'est écrit « rassit » dans ma version. En fait, à l'époque, il mangeait couché. Hein. Mais c'est bon. Il se recouche à table, si vous voulez. Alors, il leur dit « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement et déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples, déconcertés, se regardaient l'un l'autre, ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait, et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il ? » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat, celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Alors ce texte recèle un enseignement essentiel quant à notre vie de disciple, le fait de vivre la croix de Christ dans toutes nos relations et notamment avec nos frères et sœurs. Je pense que ce n'est probablement pas la première fois que vous lisez ce texte ou que vous entendez une prédication à son sujet, mais le Seigneur m'a mis à cœur de façon assez insistante de vous le partager, alors qu'il ne faisait pas partie spécialement de mes lectures du moment ou de mes préoccupations actuelles. Alors j'ai décidé d'obéir. Cette question du lavement des pieds nous était assez familière à Chantal et à moi-même, car nous avons vécu un certain nombre d'années dans une église qui pratiquait réellement ce geste lors de chaque célébration de la Sainte Cène. Le geste lui-même était vécu dans cette église comme faisant intégralement partie de la célébration de la Sainte Cène, et donc comme un commandement ou une ordonnance du Seigneur. Et nous l'avons pratiqué en toute sincérité, au moins au début, mais sans véritablement comprendre le prix que le Seigneur attachait à sa répétition, ni ce que cela signifiait pour nos frères et sœurs de l'époque. Il faut reconnaître que ce texte est tout de même assez étrange. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu enseigner à ses disciples par ce geste, dont il nous dit qu'il s'agit d'un exemple ? Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous, au verset 15. Alors, quel est le contexte de cette histoire donc, que j'ai lu en entier pour qu'on s'en imprègne un peu ? On l'a vu au verset 1. C'est juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. Jésus sait que son heure est venue. Il a parlé à plusieurs reprises à ses disciples de cette heure, mais ils n'ont jamais compris ce qu'il voulait dire, car c'était tout simplement incroyable et trop dur à entendre, même scandaleux. Rappelez-vous les paroles que Pierre adressa à ce sujet à Jésus, juste après qu'il ait reconnu en lui le Messie, le Fils Dieu vivant. On peut lire ça en Matthieu 16, verset 21. Évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 21. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, ça t'arrivera pas !» Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Que son Seigneur, en qui il venait de reconnaître le Messie, soit arrêté et mis à mort, était tout à fait impensable pour Pierre. Et certainement aussi pour les autres disciples, d'ailleurs. Et vous avez remarqué que Jésus, à la suite de cette vive discussion, déclare à ses disciples, ah oui, je ne l'ai pas lu, c'était la suite dans Matthieu, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Parole très étrange. Il est probable que les disciples ne l'ont pas comprise non plus. Un autre élément du contexte de notre passage, c'est le verset 2. « Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. » Si l'apôtre Jean, sous l'inspiration de l'Esprit, a écrit là cet élément du contexte de la scène qui va suivre, c'est certainement pour faire comprendre au lecteur l'ambiance très particulière de ce moment. La présence, au demeurant normal, de Judas parmi les douze, dans ce moment particulièrement chargé émotionnellement pour le Seigneur, explique probablement son trouble. On a vu verset 11, Jésus connaissait en effet celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Et surtout le verset 21, après avoir dit cela, donc l'enseignement qu'il a voulu donner à ses disciples, Jésus fut troublé intérieurement. Notre Seigneur était troublé. Et il déclara solennellement, oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Bien que cela ne soit pas dit expressément, il est pratiquement certain que Jésus a lavé aussi les pieds de Judas. Un commentateur de l'Évangile de Jean, qui s'appelle Donald Carson, a fait remarquer dans son commentaire, lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il lave sans aucun doute aussi ceux de Judas Iscariote. Au-delà de l'amour et de la patience insondable du Maître, cela prouve qu'aucun rite, même accompli par Jésus lui-même, ne pouvait procurer la purification spirituelle. Nous reviendrons sur cette question de purification. C'est donc dans ce contexte très chargé, à la veille de la Pâque, avec l'ombre sinistre de la croix qui se profile devant les yeux de Jésus et la présence de celui qui va le trahir, que Jésus va utiliser une coutume moyen-orientale courante pour enseigner ses disciples. Dans cette culture, offrir à ses invités de leur faire laver les pieds en les accueillant par un serviteur, le plus souvent un esclave, était une marque de bienveillante attention. Luc nous rapporte que Jésus a reproché, par exemple, à Simon le pharisien de ne pas l'avoir honoré, entre autres par ce geste. On trouve ça en Luc 7, verset 44. Il avait dit, Simon, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Donc le repas a commencé. Ils sont installés, comme le veut la coutume gréco-romaine de l'époque, allongés autour de la table où le repas est servi. Et tout à coup, Jésus se lève, pose son vêtement de dessus, prend une serviette qu'il noue autour de sa taille, prend une cuvette, la remplit d'eau, et s'agenouille aux pieds de ses disciples, eux toujours allongés, pour leur laver les pieds. Et le voilà qui commence cet humble service qui, d'après les données historiques, était réservé vraiment aux esclaves. On peut comprendre la stupéfaction des disciples. Ils avaient tout à fait conscience que Jésus était leur Seigneur, leur Maître. On l'a vu au verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Et comme à son habitude, c'est Pierre qui n'en peut plus de cette situation. Cette situation insupportable, et lorsque Jésus arrive vers lui pour lui laver les pieds, il s'exclame, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» On peut facilement deviner ses pensées. « Ça n'a pas de sens, c'est horriblement gênant, tu renverses tout, c'est fou !» Paul a écrit en 1 Corinthiens 2, verset 14, « L'homme livré à lui-même, ou l'homme charnel, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre. » Aussi, Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Alors Pierre se rebiffe, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Alors, cette réponse de Jésus, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Pierre continue dans son indignation, « Dans ce cas, ne lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. » Il semble que Pierre commence à percevoir un peu que Jésus parlait par ce geste de purification. Il sait bien qu'il est pécheur et qu'il a besoin de cette purification. Alors Jésus lui répond, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Et Jean, qui rapporte la scène, ajoute, « Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Mais alors comment comprendre ces paroles mystérieuses de Jésus? Et d'abord, « Si je ne te lave, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Comment comprendre? Si Pierre et les autres, certainement, ne se laissent pas laver les pieds, il n'y a plus rien de commun entre eux et Jésus. C'est si grave que ça? La gravité du ton suggère qu'on a affaire à beaucoup plus qu'une simple leçon d'humilité et de service réciproque. De plus, on voit que Jésus lie ce lavement des pieds à la notion de pureté au verset 10. Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus est donc en train d'affirmer que ses disciples, sauf Judas, sont purs. Alors, comment comprendre ça? Judas a certes eu les pieds lavés, comme les autres, mais il n'a pas été purifié. Deux passages dans ce même évangile nous éclairent sur cette question de la purification. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, au verset 63, c'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples, « C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Et Jean ajoute au verset suivant, « En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. » On retrouve toujours cette notion-là. Au chapitre 15 du même évangile, au verset 3. 15, verset 3. « Au moment où Jésus prononce cette parole, Judas n'est plus là. » Judas est sorti, rappelez-vous. Hein. Et il dit à ses disciples, « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. » Littéralement, « grâce à la parole que je vous ai dite. » Ah bon? Est-ce qu'un effet magique de la parole de vérité? Non, bien sûr. Mais les disciples l'ont cru, cette parole. Elle est esprit et vie, nous l'avons lu. Et elle purifie celui qui la reçoit. C'est-à-dire celui qui met sa foi en elle. Et c'est pour cela que Jésus les a déclarés purs, et pas Judas. Mais alors, pourquoi ce lavement des pieds? C'est parce que la vraie purification s'opère à la fois par la parole de révélation de Jésus et par le sacrifice expiatoire qu'annonçait le lavement des pieds. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus prend la dernière place, celle de l'esclave. Il s'humilie volontairement. Et ce geste ne fait qu'anticiper l'humiliation suprême du calvaire. En Philippiens 2, verset 6, on lit ce passage bien connu. « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. » Les disciples ont été purifiés par anticipation par la parole qu'ils ont reçue et crue, parce qu'elle a produit en eux la foi, mais cette purification n'a été effective ou opérée, si vous voulez, que par le sang de Jésus versé pour eux et pour nous tous, au calvaire, en rémission de nos péchés. On comprend alors pourquoi Jésus avait dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Le lavement des pieds n'est donc pas simplement une leçon d'humilité. Mais alors, pourquoi Jésus a-t-il dit les paroles des versets 13 à 17 ? « Vous m'appelez Maître et Seigneur ?» Et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Jésus a donc donné là un exemple, et non pas un rite, de ce qu'il attend que les siens mettent en pratique. Il leur dit par là, et à nous aussi, « Vous comme moi, il va falloir que vous acceptiez le chemin de la croix dans votre vie quotidienne, et particulièrement dans vos rapports des uns envers les autres. Il n'est aucun chrétien qui peut se contenter d'être sauvé et de faire l'impasse sur la vie de disciple. Quand on est sauvé, on accepte ce chemin du lavement des pieds des autres, c'est-à-dire de vivre pour le Christ jusqu'à donner sa vie pour les autres. On voit que ce geste signifiait bien plus qu'un simple exemple d'humilité. Et je pense qu'on peut facilement trouver des domaines d'application de ce principe. Je prendrai un seul exemple et je vous laisse le soin d'en chercher d'autres. Nos relations avec notre premier prochain, c'est-à-dire notre conjoint, pour ceux d'entre nous qui sont mariés. Éphésiens 5, 25 nous dit, « Quant à vous, Marie, ça a été rappelé hier, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par un bain nuptial. » On retrouve donc dans ce verset la notion que l'on a vue dans Jean de purification par la parole de Dieu, mise en rapport avec le don de la vie de Christ pour son Église. Un exemple pour les maris à imiter. Non pas purifier son épouse, car c'est Dieu qui l'a fait, mais de l'aimer comme le Christ a aimé son Église au point de donner sa vie pour elle. Nous les maris, sommes-nous prêts à donner notre vie pour notre femme, à sacrifier notre fierté de mâle, à prendre en compte ses désirs, ses aspirations, sans donner priorité aux nôtres, à lui redonner la place qui lui revient dans le foyer comme dans l'Église, à rompre cette longue malédiction de la domination masculine dans les sphères où elle n'a rien à voir avec ce qu'enseigne pourtant la Bible. Je laisse le soin à chacun de développer ce thème pour sa vie conjugale et aussi dans toutes les autres relations avec son prochain où nous sommes amenés à prendre avec détermination et même joie notre croix, parce que nous le faisons à l'exemple de celui qui l'a fait pour nous et parce qu'il nous le demande. Je dis avec joie parce que le Seigneur, vous l'avez remarqué, a conclu cet enseignement en disant à ses disciples « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux ». Makarioi dans le grec, hein, ça veut dire heureux, à condition de les mettre en pratique. Et c'est le même mot qu'a utilisé le Seigneur en Matthieu 5 dans son fameux discours sur la montagne. Heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui répandent autour de la paix, pour n'en citer que deux. Prendre sa croix dans tous ses rapports avec autrui est quelque chose qui fait horreur à la chair. Et pourtant, c'est le chemin de l'obéissance à l'exemple que nous a donné notre maître et même le chemin du bonheur, c'est lui qui l'a dit. Et vous serez d'accord avec moi que nous pouvons lui faire confiance.